באפריקה. Alain Foucault.
Il n'a aucun passé colonial. Est à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de l'Afrique. Et pourtant, en quelques années, il est devenu l'une des destinations privilégiées des subsahariens, notamment des étudiants, mais également des travailleurs qualifiés, médecins, ingénieurs, diplômés des nouvelles technologies. Mieux, il compte dans son parlement plusieurs élus d'origine africaine. Mais ce n'est pas tout. Sans tambour ni trompette, au même rythme qu'il accueillait ses immigrants, il est devenu l'un des partenaires importants du continent noir où il mène une réelle offensive économique avec près de 12 milliards et demi de dollars d'échanges. Le Canada. Comment expliquer le développement de cet axe Afrique-Canada? Pourquoi ce regain d'intérêt des étudiants et cadres africains pour ce lointain grand froid du Canada? Qu'est-ce qui amène ces quelques arpents de neige, comme l'appelait Voltaire au 19e siècle, à investir de plus en plus en Afrique? Et dans quel domaine? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à cette relation qui prend de plus en plus d'importance, avec plusieurs invités africains et canadiens en ligne au téléphone. D'abord, M. André Ish Yaba, le président de l'ONG Galaxy Jeunesse Internationale. Il est en direct de Brazzaville aujourd'hui où il est en déplacement. Bonjour, M. Ish Yaba.
Bonjour, M. Alain Foucault.
Notre second invité est M. Jérôme Lankwande. M. Lankwande est le président de Yulcom Technologies, qui entretient un important courant d'affaires entre le Canada et l'Afrique. Il est également le président d'une chambre de commerce à Montréal. Bonjour, Monsieur Lankwande.
Bonjour, Alain Foucault.
Monsieur Moïse Mounian, notre troisième invité, est le fondateur des éditions Grenier, une maison d'édition indépendante. Il est journaliste, écrivain et politologue. Bonjour, Monsieur Mounian.
Bonjour, Monsieur Alain Foucault.
Murtala Salah est un important cadre canadien qui s'investit beaucoup au profit de l'Afrique, son continent d'origine. Il est également membre du comité éditorial d'Africa Web Festival à Abidjan, qui s'est tenu en décembre dernier. Il est en direct de Montréal. Bonjour, Monsieur Murtala.
Bonjour, Monsieur Foucault.
Alors voilà pour notre plateau. Ils étaient seulement 1,7% en 1971, 14,6% en 2006. Et maintenant, ils représentent un peu plus de 18% de la population immigrée au Canada. Comment expliquer cet intérêt des Africains pour cette destination si lointaine et si froide, M. Murtala?
La qualité de l'enseignement et le coût relativement bas qui attirait en premier lieu les étudiants africains vers le Canada. Bien entendu, il y a le cadre de vie. Il y a une très bonne qualité de vie ici au Canada et particulièrement...
Malgré le froid, vous êtes par exemple à moins 20 degrés pour quelqu'un qui débarque de Bamako ou de Niamey. C'est la fin du monde.
Effectivement. Mais la qualité de vie, disons, compense les difficultés du climat.
Quand vous dites la qualité de vie, qu'est-ce qui fait la différence avec l'Europe où les Africains vont encore majoritairement?
Eh bien, vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau pays, il faut trouver un logement à un coût relativement abordable. Il faut également pouvoir facilement avoir accès à des services publics. Et donc, tout cela existe au Canada. C'est nettement plus simple qu'en Europe. Vous avez aussi accès aux services privés, à tout ce qui touche Internet, les connexions téléphoniques. Tout ceci est très facile à effectuer, l'ouverture d'un compte en banque. Et donc, l'installation se fait assez rapidement et dans des conditions optimales.
Vous partagez ce point de vue, Monsieur Mounian? Parce que ce que décrit M. Murtala, c'est le paradis, quasiment, en dehors du froid qui est extrême.
Oui, mais ce qu'il dit n'est pas faux, parce que ce qu'il dit est totalement vrai. Mais ça, c'est en surface, parce que il faut voir le côté sombre, l'autre côté. Parce que ce qu'il dit, il a l'expérience, et c'est quelqu'un quand même qui connaît mieux, qui est dans le domaine, qui est dans les relations... et qui connaît bien au niveau, parce qu'il travaille aussi avec le gouvernement, donc M. Murtala, ce qu'il dit est totalement vrai. Mais seulement, il y a un autre côté qu'on ne perçoit pas. C'est ce côté-là qui nous inquiète. Parce que c'est le côté sombre du Canada.
Quand vous dites celui-là, le côté sombre, c'est quoi?
Celui-là, on n'en parle pas.
C'est quoi le côté sombre dont vous parlez?
Mais la misère des immigrants. Des gens qui arrivent ici, qui ont toutes ces difficultés, qui sont rejetés, que le système oublie ou écrase, et puis que le système expulse, et qui ne sont jamais... parce que le côté lunaire du Canada, c'est le beau côté. Hein. On donne l'image, là, c'est un côté d'un pays qui est bon et tout, mais il y a toute une misère qui est là.
Si vous pouviez être plus précis, quand vous dites misère, misère de quel point de vue? Du point de vue financier, du point de vue administratif?
Des gens qui viennent ici et qui se sentent abandonnés, qui ne sont pas soutenus, que le système n'intègre pas. Donc, qui arrive ici, vous avez par exemple, je vous donne un exemple comme vous voulez un exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous avez les médecins haïtiens, vous avez des ingénieurs, des diplômés, des gens dont le Canada se vante d'être un pays bilingue, parce que francophone et anglophone, et vous avez des gens, le Canada qui se vante aussi d'être un des piliers de la francophonie, et des gens qui sont diplômés et qui arrivent ici et on ne reconnaît pas leur diplôme. C'est ça ce côté sombre-là. Des médecins qui arrivent ici et puis qui deviennent des balayeurs de rue, des ingénieurs qui deviennent des taximen ou qui sont obligés d'aller travailler dans les McDonald's, qui sont obligés d'aller balayer, qui travaillent dans des usines et, ou dans les devantures des manufactures. Et donc c'est ce côté-là.
Mais lorsqu'on vous écoute, Monsieur Mouyan, on a le sentiment que c'est la même chose qu'en Europe, par exemple, parce que ce que vous décrivez, beaucoup le vivent en Europe. Or, on disait jusqu'à maintenant que c'était la différence avec le Canada. Monsieur Jérôme Lankwandé, vous partagez ce point de vue, que la misère est tout aussi importante qu'en Europe, finalement?
Non, je ne partage pas du tout ce point de vue. Tout est relatif, évidemment, mais comme vous-même vous l'avez dit, on retrouve les mêmes problèmes pratiquement dans tous les pays. C'est un problème auquel tout immigrant fait face dans n'importe quel pays il arrive. Alors, quand je dis tout est relatif ici, nous n'avons pas de barrières liées au fait que nous sommes étrangers. Nous avons peut-être des barrières dues au fait que les employeurs ne partagent pas nécessairement notre culture et qu'ils nous sont... Les étrangers, pour eux, ce sont des gens à découvrir encore. Mmh. Alors, donc, c'est ça qui fait la barrière au niveau de l'emploi pour beaucoup de gens. Évidemment, le problème est reconnu par tout le monde, que ce soit les immigrants comme les autorités. Oui, il y a un problème d'intégration au niveau de l'emploi, mais au-delà de ça, pour tout entrepreneur qui est capable de démontrer ses capacités, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup plus qu'en Europe.
Alors, aujourd'hui, quel est le profil de ceux qui arrivent le plus au Canada aujourd'hui, M. Murtala?
Alors, je vous dirais que la première caractéristique des immigrants d'Afrique ici au Canada, c'est d'abord le niveau de diplôme. Ce sont des gens qui sont très diplômés. Ensuite, vous avez bien sûr la deuxième tranche qui sont des étudiants pour l'essentiel et dont une partie décide finalement de rester. Vous avez effectivement aussi une tranche qui sont des réfugiés. Le Canada accueille des réfugiés d'origine subsaharienne. Mmh. Et une grande partie des subsahariens sont installés au Québec et non pas dans le reste du Canada.
Il faut expliquer pour le plus grand nombre, parce que quand les gens entendent Canada et on fait le distinguo Québec, les gens ne savent pas toujours très bien. Dites-nous un peu, c'est quoi la différence? Parce que le Canada, c'est le grand ensemble.
Exact. En fait, le Canada est un État fédéral qui dispose de plusieurs provinces, avec des provinces qui sont plus ou moins bilingues et avec le Québec qui est la province la plus bilingue du Canada, mais dans laquelle vous avez la primauté du français, qui est la langue officielle au Québec.
Alors aujourd'hui, où vont le plus les migrants, finalement? Subsahariens, j'entends.
Alors essentiellement au Québec, et une très grande majorité s'installe à Montréal. C'est une difficulté d'ailleurs pour le gouvernement du Québec, qui souhaiterait que ces immigrants puissent également s'installer en région, mais la très grande majorité s'installe dans la région métropolitaine de Montréal.
Les anglophones aussi?
Les anglophones également.
Mais pourtant, on avait plutôt tendance à penser que les anglophones allaient du côté d'Ottawa, allaient dans les autres régions du Canada.
Alors, vous avez effectivement une grande proportion d'immigrants d'Afrique anglophone dans des villes comme Toronto, par exemple.
Comme Toronto, oui.
Du Nigeria, Toronto. Exactement, d'Éthiopie également. Vous avez pas mal de Somaliens également installés à Toronto.
Mm-hmm. Mais le plus grand bassin d'accueil, c'est Québec.
C'est le Québec, exactement.
C'est le Québec. Alors, là, je me tourne vers M. Andrich. Connaissez-vous cette population-là et est-ce que vous avez des contacts avec cette population?
Ben, éventuellement avec le Québec. Et si je peux bien sûr rebondir sur ce que mon prédécesseur était en train de dire,
c'est
que le Canada, M. Murtala, autant pour moi, a 13 provinces. Et le Québec, ben, c'est l'une des provinces les plus peuplées parce qu'il y a la province de l'Ontario, donc dans... la capitale la plus importante, la ville la plus importante en économie est Toronto. Et Montréal, en fait, c'est le poumon économique du Québec, donc qui comporte à peu près 6 millions d'habitants et Toronto à peu près 8 millions. Donc voilà, donc Toronto dans l'Ontario et le Québec, Montréal dans le Québec, mais c'est les deux provinces les plus importantes de du Canada.
Alors là, on a entendu un peu le profil. On a entendu le profil de ceux qui viennent au Canada, mais on n'a pas beaucoup entendu parler de la politique même de l'État canadien qui est de faire appel à une main d'œuvre. Qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Ben, ce qu'il en est, c'est que évidemment, le Québec se distingue un peu de toutes les autres provinces, déjà de par sa formation en termes de développement depuis. Les années 60, il faut dire, en moins de 10 ans, c'est-à-dire partant de l'époque du Premier ministre Maurice Duplessis, qui a laissé place à Jean Lesage, qui est notamment appelé le père de la Révolution tranquille. Et c'est ce dernier qui a eu à révolutionner tout le Québec, toutes les structures qui ont pu cette partie du Canada comme étant une puissance, carrément en développement, qui aujourd'hui, parfois, on entend le dire, veut se démarquer des autres provinces en ayant son propre territoire, et parce qu'elle s'auto-suffit pratiquement. Et, voilà un peu, quelque part, ce qui emmène aussi, quelque part, les immigrants, comme le disait le prédécesseur tout à l'heure, c'est sûr que dans tout système, il y a des failles, et je crois qu'il y a un qui a relevé un peu le côté sombre. Ben, j'appellerais pas ça le côté sombre, j'appellerais ça beaucoup plus peut-être une faille du système à laquelle il faut remédier.
C'est-à-dire l'accueil d'un certain nombre de personnes.
Eh oui, mais l'accueil ne se fait pas au hasard. L'accueil se fait parce que le Québec est d'abord une province, ou encore le Canada, c'est un pays qui a un problème, c'est-à-dire celui du vieillissement de la population. Et donc, il retrouve dans l'accueil des immigrants une certaine solution à ce moment-là. Et malheureusement, c'est difficile pour certains de s'intégrer parce que le processus n'est pas aussi facile.
Peut-être que Murtala va nous apporter un éclairage supplémentaire. Qu'est-ce qui explique cette politique d'appel de la main-d'œuvre ? C'est qui, généralement, est le contraire dans la plupart des autres pays où on n'aimerait pas voir venir des immigrés. Là, on fait venir des immigrés. Quel est leur profil ?
Alors, effectivement, comme le disait le monsieur, c'est que le Canada compte 30 millions d'habitants. Vous avez 8 millions d'habitants au Québec, pour un pays qui est vraiment immense. Donc, il y a des besoins, bien sûr, en termes de main-d'œuvre, parce que le taux d'emploi, le nombre de personnes qui sont sur le marché du travail n'est pas assez conséquent pour qu'à long terme, le Canada puisse assurer une qualité de vie aux personnes qui sont tant à la retraite et qui sont en emploi. Donc il y a un besoin de cette main-d'œuvre et il faut préciser que le Canada fait une politique d'immigration qui d'abord est très sélective, donc va chercher des gens qui sont très diplômés, et en second lieu, c'est une politique qui est offensive. Comme vous le savez, vous avez pu le voir sur le continent africain, très souvent vous avez des publicités dans Jeune Afrique ou d'autres magazines qui demandent aux jeunes Africains d'aller étudier ou d'aller appliquer pour venir immigrer au Canada.
Donc en gros, on compense le vieillissement de la population, comme le disait à l'instant André Hich, par une population qui arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un rejet des populations locales vis-à-vis de ces immigrés qui arrivent et qui ne s'intègrent pas toujours correctement, Monsieur Jérôme Langouandé ?
Bonne question. On ne peut pas aller jusqu'à dire que nous avons un rejet de la population locale. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Le Canada reçoit, la majorité des immigrants ne viennent pas du tout d'Afrique. C'est la Chine qui est le premier pourvoyeur.
Absolument. L'Asie en gros.
Alors, beaucoup de ces gens sont dans l'Ouest, vers Vancouver. Et moi, j'étais dernièrement à Vancouver, je n'ai pas senti ça. Ils sont très, très impliqués. L'économie de Colombie-Britannique ressent beaucoup l'Asie, on sent l'Asie qui est là. Alors je ne sens pas du tout cela. Ici, la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, la majorité qui viennent au Québec, la majorité sont des étudiants, et la réalité d'être étudiant est pareil partout, c'est beaucoup de difficultés pour s'intégrer parce qu'on est nouveau. Alors donc, je pense que le défi que nous avons ici au Québec, c'est l'intégration des immigrants. Il faut rappeler quand même que le Canada est le deuxième pays, la deuxième destination d'immigration au monde, derrière les États-Unis. Nous avons environ 250 000 immigrants qui viennent presque chaque année. C'est quand même beaucoup. Après les États-Unis, c'est le deuxième pays. Et quand on compare par rapport à la population, nous avons 34 millions d'habitants, ce qui pose un défi énorme en termes d'intégration. Alors, le gouvernement qu'on vient d'avoir en ce moment avec le Premier ministre Justin Trudeau, ce problème je pense être pris à bras le corps dans la mesure où on accepte de nouveaux immigrants, notamment des réfugiés. Donc, il y a beaucoup de moyens qui vont être mis sur la table pour faciliter l'intégration. Même si ce n'est pas le cas jusque-là, je pense que là, il y a une prise de conscience à ce niveau. Nous avons un gouvernement très favorable à l'intégration des immigrants et il y aura beaucoup plus de pression pour qu'il y ait une meilleure intégration des immigrants, surtout quand on augmente le nombre d'immigrants par année.
Vous partagez cet optimisme, M. Mouillon ?
Ben, je pense que l'image que j'entends et tout, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies, mais je pense que c'est une très belle image, une belle image qui me surprend d'ailleurs. Parce que c'est l'intégration dont on parle, c'est une intégration en surface. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont ici, diplômés, et qui souffrent, qui ont des difficultés et qui ne sont pas intégrés. D'abord, il faut dire une seule chose.
C'est que le Canada, mais pourtant, on fait savoir qu'on demande de la main-d'œuvre. Lorsque vous dites qu'il y a des étudiants qui sont sur place, qui souffrent, qui ne trouvent pas d'emploi, on se dit quand même qu'il y a une contradiction quelque part.
Ils sont formés parce qu'il peut y en avoir. J'ai mes amis qui viennent de parler et je sais qu'ils sont très bien intégrés et puis je les comprends. Donc, ils sont quand même des exemples d'intégration. Et je suis fier de leur parcours. Parce que je connais leur parcours, je suis fier d'eux d'ailleurs. Donc je salue leur parcours. Mais il y a une majorité qui est écrasée, je reviens avec l'expression, une majorité qui est écrasée, une majorité qui a étudié ici, qui ont le même diplôme que les gens d'ici et qui sont effacés. C'est pas parce que quelques individus, parce que souvent on a l'habitude de montrer quelques individus et de dire que c'est eux l'intégration. C'est un mensonge, une hypocrisie totale. Et au Canada, c'est ça. Au Canada, en prenant l'expression, c'est une hypocrisie. On montre quelques individus qui ont réussi, on les branche, on les montre, on leur donne des prix, on les montre comme quoi ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais il y a une majorité qui est ici, diplômée d'ici. Je ne parle même pas de ceux qui sont venus avec des diplômes de l'extérieur. En plus, des pays francophones ou anglophones. Là. Mais je parle des gens qui ont étudié ici, qui sont diplômés ici, et qui n'arrivent même pas à obtenir le même poste que les autres.
On va laisser M. Andrich réagir à ces propos-là.
Oui, tout système a des défaillances. Et là, il relève quelques défaillances de ce système-là. Je crois que nous devons quand même nous dire la vérité en ce qui concerne le système d'intégration du Québec. Oui, il y a des réformes à faire. Il y a des réalités que nous pouvons remarquer sur le terrain. Mais il faut aussi dire que les structures, les différentes structures qui facilitent la venue des immigrants ou l'intégration des immigrants favorisent la prise de connaissance de l'information à travers plusieurs organismes qui sont présents. Mais nous, les immigrants aussi, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas toujours à l'affût de l'information. C'est-à-dire, on va toujours vers, par exemple, des immigrants comme nous qui sont parfois mal informés, alors que les structures qui se chargent de donner l'information sont présentes. Mais on préfère faire confiance à notre frère, à notre parrain ou encore aux personnes non indiquées pour renseigner éventuellement. Et souvent, on assiste là à beaucoup qui s'égarent et qui n'ont pas la vraie information. Parce que dans la communauté, il faut le dire, l'information n'est pas toujours vérifiable là où on la souhaite. Donc, ceci dit, c'est important pour nous aussi de prendre conscience de cette réalité. Il y a des situations que nous remarquons sur le terrain qui ne sont pas toujours justifiables. Oui, la présence de la discrimination, elle est là, elle est bien vraie, elle est réelle. Mais est-ce qu'au nom de cette discrimination, on doit s'arrêter là et toujours pleurnicher et toujours dénoncer? Je pense qu'à un moment donné, il faut s'organiser aussi. Nous avons plusieurs autres communautés. Les Africains ne représentent que 2%. Hein, en termes de présence immigrante là, mais nous savons aujourd'hui que nous représentons la médiocrité de cette intégration au niveau de l'immigration. Mais les autres présences, quand on parle des Haïtiens, quand on parle des Africains, des Caraïbes, on remarque une démarcation totale de la nôtre parce qu'ils s'investissent, ils s'organisent et ils s'alimentent comme il faut pour que le Québec, c'est-à-dire le gouvernement québécois, prennent en conscience leur doléance.
Alors, voilà, on va en parler justement dans la seconde partie du domaine dans lequel ces Africains s'investissent, mais également du gouvernement, même canadien, qui fait une offensive sur l'Afrique. Dans quel domaine s'investit ce gouvernement-là? On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
International. Sophie Malibaud.
Débat africain. Alain Foucault.
Il attire de plus en plus d'Africains. Ils sont nombreux à s'y installer pour des raisons, comme on l'a entendu, à la fois économiques et administratives. Mais qu'est-ce qui, dans le même temps, intéresse le Canada en Afrique? Comment ce pays, sans passé colonial, est-il devenu l'un des partenaires importants du continent? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'offensive canadienne en Afrique, avec plusieurs invités au téléphone. D'abord, Monsieur André Ishiyaba, le président de l'ONG Galaxy Jeunesse Internationale. Il est en direct de Brazzaville, où il est en déplacement. Notre second invité est Monsieur Jérôme Lankwande. Monsieur Lankwande est le président de Yulcom Technologies, qui entretient un important courant d'affaires entre le Canada et l'Afrique. Il est également le président d'une chambre de commerce à Montréal. Moïse Mouignan, notre troisième invité, est le fondateur des éditions Grenier, une maison d'édition indépendante. Il est journaliste, politologue et écrivain. Murtala Salah est un important cadre canadien qui s'investit beaucoup sur les projets en Afrique, son continent d'origine. Il est également membre du comité éditorial de Africa Web Festival à Abidjan qui s'est tenu en décembre 2015. Il est en direct de Montréal lui aussi. Que fait le Canada en Afrique? Pourquoi ce pays si lointain, qui n'avait pas vraiment un lien direct avec le continent noir, s'intéresse de plus en plus à lui? J'ai envie de poser cette question à Jérôme Lankwande d'abord.
Oui, avant de répondre à cette question, nous sommes dans un débat, c'est important de réagir à ce que M. Mounia a dit. Je veux bien préciser que le Canada, ce n'est pas seulement le Québec, c'est souvent ce que beaucoup de gens qui habitent au Québec ignorent. Quand vous partez dans d'autres provinces, vous allez découvrir qu'il y a d'autres communautés qui ne sont pas francophones, je parle des Asiatiques. Et le Canada, l'immigration africaine, peut-être moins de 10%. Alors donc, il faut préciser ça. Est-ce qu'il y a des Italiens qui ne font pas de bonnes affaires ou qui ne trouvent pas d'emploi ici? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des communautés asiatiques qui n'en trouvent pas? Oui, il y en a. Mais au sein de ces mêmes communautés, il y a beaucoup de gens qui réussissent. Et il faut relativiser les choses. Ici, nous comparons le Canada aux autres pays. J'ai bien dit que oui, il y a un problème d'intégration, parce qu'on en reçoit beaucoup. Est-ce que le Canada est capable de gérer tout le flux d'immigration qui ressort? Je pense qu'en ce moment, les politiques ne sont pas adaptées. Je le dis clairement, tout est relatif. Est-ce qu'on est capable d'avoir des emplois ici? Oui, il y en a. Mais quand on est immigrant, c'est beaucoup plus difficile que ceux qui ne sont pas des immigrants. Et je ne crois pas que le Canada soit le seul pays qui a ce problème. Alors oui, je reconnais avec M. Mouignan qu'il y a des difficultés pour intégrer les immigrants. Il y a beaucoup de gens qui ont des PhD ici, des ingénieurs qui se retrouvent et des chauffeurs de taxi. C'est déplorable et tout le monde est conscient de cela.
Ça, on trouve ça aussi aux États-Unis et ici en Europe. Et même en Afrique. Et même en Afrique, puisque les diplômés aujourd'hui sont conducteurs de taxi.
Exact. Pour terminer, si M. Mounia pense que dans d'autres pays, il n'y a pas des gens qui ont des difficultés pour s'intégrer, des États-Unis ou l'Europe, et que le Canada est pire que ces pays, bon, je m'excuse, je ne savais pas. J'apprends avec lui. Moi, je demande, de l'analyse que j'ai faite de tous les pays que j'ai visités, les immigrants ont toujours de la difficulté à s'intégrer. Le Canada ne fait pas exception. L'erreur qu'on a ici de nos politiques, c'est d'avoir une quantité d'un flux d'immigrants supérieure à peut-être notre capacité d'accueil. Nous avons plus de 250 000 pour une population de 34 millions d'habitants. Je crois que c'est au ce niveau que les politiques doivent revoir pour s'assurer que tout est mis en place. Nous avons un nouveau gouvernement fédéral qui est en faveur de l'immigration. On vient de changer la politique d'immigration. Avant, on peut être un Canadien, mais ne pas bénéficier de certains droits quand on a problème avec la justice, notamment les questions terroristes. Le nouveau gouvernement a changé cela. Désormais, il n'y a pas deux classes de citoyens. C'est quelque chose d'intéressant. Donc moi, je pense que le gouvernement Trudeau est favorable. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème? Non. Il y a des problèmes.
Il y a des problèmes. Alors, une fois qu'on a évoqué ces problèmes, qui sont un peu des problèmes que l'on rencontre dans la plupart des pays d'immigration, la question que se pose la plupart des Africains lorsqu'ils regardent ceux qui arrivent du Canada, est-ce que vous gardez un lien avec le continent? J'ai envie de poser la question à Murtala Salah.
Alors effectivement, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a 2 ans, quand je suis rentré dans mon pays natal, le Niger, et je me suis promené en rencontrant des entrepreneurs, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Je suis allé voir le Sipmen, qui est l'incubateur d'entreprises. Et quand je suis rentré à Montréal, j'ai rencontré Madame Mariam Sidiaora, qui est la fondatrice de l'Africa Web Festival, et qui voulait justement regrouper des jeunes Africains qui connaissent les nouvelles technologies, qui comprennent le concept des villes intelligentes, pour pouvoir mettre en place une initiative en Afrique, à Abidjan, sur les nouvelles technologies. Et c'est comme ça que je me suis impliqué dans cette initiative, tout en demeurant à Montréal. Je fais mes déplacements sur place et je contribue à distance à ma manière.
Oui, mais très, très honnêtement, est-ce que l'Afrique n'est pas trop loin pour vous et trop loin de vos préoccupations?
Justement, la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'est que de nos jours, avec les nouvelles technologies, avec les gens qui sont en réseau, il est tout à fait possible de briser les notions relatives que sont le temps et la distance pour être capable de, d'avoir des partenaires fiables sur le terrain. Je parle donc d'Abidjan, de Cotonou, de Niamey, et quelques villes que ce soit en Afrique.
Mais le décalage horaire est important quand même. On a le sentiment que lorsque vous commencez à travailler, la plupart d'entre eux vont se coucher. Monsieur Andriich, est-ce que c'est facile de travailler avec l'Afrique, d'avoir des projets avec l'Afrique au départ du Canada?
Ben, je dirais que facilement, il faut travailler. Travailler pour avoir des résultats concluants.
Non, ça, on a bien compris, mais est-ce que c'est quelque chose de jouable?
Oui, c'est quelque chose de jouable. C'est quelque chose de jouable. Il suffit simplement d'organiser et d'anticiper certaines possibilités pour ne pas rencontrer les problèmes du décalage horaire.
Monsieur Jérôme Lancouandé, je sais que vous faites votre plus gros chiffre d'affaires dans votre société vers l'Afrique. Est-ce que c'est aisé d'entretenir un courant d'affaires avec les pays africains, notamment d'Afrique de l'Ouest?
Oui, ça dépend des domaines dans lesquels nous sommes. Comme Routala l'a dit, avec la nouvelle technologie, on est capable de faire beaucoup de choses avec l'Afrique, notamment dans les logiciels, notamment dans les applications web, tous les services. Mais tout ce qui exige des coûts élevés de transport, il y a un gros problème parce qu'il y a la distance. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs beaucoup de compagnies africaines ne sont pas encore très présentes en Afrique, la distance.
Il n'y a pas de vol direct entre le Canada et un pays africain, en dehors de l'Afrique du Sud.
Il y en a plusieurs, le Maroc, l'Algérie, le Ghana, je pense. Et l'Afrique du Sud, évidemment, il y a beaucoup de vols directs, mais quand il s'agit de transporter, par exemple, à travers la mer, les bateaux, ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. Mais tout ce qui exige des déplacements de personnes, évidemment, ça prend plus de temps si on compare l'Europe et le Canada. Mais tout ce qu'on peut faire à distance, il y a beaucoup d'affaires qui se font. Et puis tout ce qui permet, ce qui engage des déplacements à travers les avions, c'est tout à fait correct. Mais quand il s'agit de transports lourds, ça devient un peu difficile, surtout pour les petites et moyennes entreprises.
Au-delà des logiciels que vous proposez, M. Lancouandé, qu'est-ce qu'on échange entre le Canada et l'Afrique? C'est quoi le commerce qui se fait entre le Canada et l'Afrique?
Le Canada est très présent en Afrique dans le domaine des mines. Là, beaucoup de gens le savent déjà, notamment en Afrique du Sud. Comme vous savez, Toronto est l'une des plus grandes bourses du monde dans le domaine des matières premières. Mmh. Et le Canada est présent dans beaucoup de pays africains. Et au cours des 10 dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Je vous donne des exemples. Le Burkina Faso. Le Canada est devenu le premier investisseur étranger au Burkina Faso depuis 2008. Mmh. Ça, c'est pas rien. Ensuite, avec l'Afrique du Sud, c'est plus de 1,5 milliard de dollars en termes d'échanges commerciaux entre les deux pays. L'Afrique du Sud est le premier partenaire, suivi de l'Angola et le Nigeria. Et quand l'Algérie, il y a eu un moment où l'Algérie était l'un des premiers fournisseurs de pétrole pour le Canada. Je pense qu'ils sont parmi les top 5 toujours. Alors donc, il y a beaucoup d'échanges. Après les ressources minières, il y a les technologies d'information. Je vais vous donner un autre exemple. Une compagnie que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais Canadian Banknote Company, celui qui fabrique beaucoup de passeports. Les passeports des pays africains. SNC-Lavalin est présent dans beaucoup de pays africains pour les grands ouvrages. À Madagascar, dans la construction, il y a une grosse compagnie appelée Eliwari. Donc, beaucoup de domaines, notamment l'aéronautique Bombardier, qui vend beaucoup d'avions en Afrique. Bref, je pense que
nous avons un niveau.
Exactement. Alors, donc, le Canada est tranquillement en train de s'installer dans presque tous les pays africains, mais tout est relatif quand on compare par rapport à la France, évidemment, il y a beaucoup de travail. À la Chine, qui a plus de 200 milliards d'échanges commerciaux avec l'Afrique, c'est dans la démesure.
Contre 12,5 pour le Canada, c'est vrai que
exactement.
Ça ne fait pas beaucoup.
C'est insignifiant. En termes de stocks, évidemment, la France, les États-Unis et l'Angleterre sont toujours les plus grands investisseurs, mais en termes de flux, je pense que le Canada se positionne tranquillement comme un partenaire de choix pour plusieurs pays africains. Vous savez, la raison pour laquelle le Canada n'est pas vraiment présent en Afrique comme les autres pays, c'est parce que le Canada a un marché naturel de plus de 300 millions de consommateurs que les États-Unis. Ça influence beaucoup le choix des entreprises canadiennes. Les grandes entreprises canadiennes sont en Afrique, mais les PME ont de la difficulté à cause de la distance. Et donc, ils préfèrent aller aux États-Unis, qui est tout proche de nous, pour vendre. Mais cette tendance est en train de changer, parce que, bon, avec les difficultés économiques que les États-Unis ont connues, il y a une tendance vers la diversification des partenaires du Canada. Et l'Afrique est en bonne position.
Alors, Andriich, est-ce qu'il existe des dispositions que prennent les pouvoirs publics pour faciliter l'échange commercial entre l'Afrique et le Canada aujourd'hui?
Oui, je dirais, comme l'a dit mon prédécesseur, oui, il y a des politiques qui sont mises en avant pour faciliter ces échanges commerciaux. Mais comme il a dit, le Canada aujourd'hui, pour ces échanges commerciaux, ils le font avec les États-Unis pour plus de 90%. Mm-hmm. Et l'effet remarquable s'est vu après le 11 septembre 2000, on l'appelle toujours la date après le 11, ben on a vu un peu le Canada s'arrêter économiquement pendant une journée, parce que les voisins de l'autre côté avaient fermé les frontières. Mais pour en dire à cela, il y a un domaine très important aujourd'hui que nous, surtout au niveau de la diaspora, nous faisons un peu cette promotion-là, c'est la formation. Alors, les institutions canadiennes, donc quand je parle ici tant dans les domaines d'éducation classique que dans les domaines entrepreneuriaux, donc c'est aujourd'hui pour nous un défi important de venir un peu rencontrer la réalité de l'Afrique, parce que quand nous voyons l'état de lieu aujourd'hui, on fait les états de lieu aujourd'hui en Afrique, on est 1,150 milliard, en 2030, nous serons 2 milliards. Alors, il y a un véritable problème auquel fait face l'Afrique aujourd'hui, c'est le manque de formation, et surtout dans les domaines des métiers cités comme la plomberie, la mécanique, l'électricité.
Mais vous pensez que c'est dans ce domaine que le Canada peut apporter à l'Afrique ?
Ben oui, beaucoup, parce que nous avons vu comment ils ont créé leur classe moyenne. Ça s'est passé en moins de 40 ans. Et c'est à travers, justement, le renforcement des capacités dans les métiers, parce que c'est la plupart des renforcements des capacités des métiers ont donné lieu à la création de plusieurs PME. Aujourd'hui, le Canada regorge plus de 80% des entreprises en PME, et c'est ce qui a créé leur classe moyenne. Alors aujourd'hui, on a 650 millions de jeunes en Afrique, il faut le dire, des jeunes de 12 à 30 ans. Alors, on remédie à cette réalité, quand je prends ne fût-ce que la zone francophone africaine, on a plus de 122 millions de jeunes africains qui errent dans les rues, qui ne savent pas quoi faire.
Donc, c'est dans ce domaine pour vous que le Canada peut aider. Alors, lorsqu'on a écouté l'activité ou plutôt l'échange commercial entre le Canada et l'Afrique, on a le sentiment, M. Bouillon, qu'il s'agit essentiellement de mines.
Mais mon frère Alain Foucault, d'abord ce que M. Hiss vient de dire, avec tout le respect que je lui dois, je suis frustré. Parce que la formation en Afrique, je n'aime pas ce discours-là. Ce discours, c'est une insulte. C'est une insulte. Les gens sont formés en Afrique. J'ai été avec M. Murtala en Afrique récemment, d'ailleurs, pour le festival Africa Web. Donc, M. Murtala et moi, on était là-bas en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. L'Afrique forme même des gens. Les Africains forment des gens en Occident. Quand on dit que les Africains ne sont pas formés, tout et tout, c'est un discours qu'il faut arrêter. Mm-hmm. C'est un discours néocolonial. Maintenant que je reviens au Canada, qu'on dise que le Canada n'a pas un passé colonial, le Canada est un pays colonial. Ce pays, c'est un pays d'abord de Première Nation, ce qu'on appelle indien. C'est un pays colonial. Maintenant, le Canada est dans les mines. Et monsieur, notre frère qui a parlé tantôt récemment de Toronto, qui est la bourse des mines, là. Le pillage de l'Afrique, les mines, le Canada fait partie de ceux qui pillent l'Afrique. Il y a le livre de monsieur Alain Desnaux qui s'appelle « Noir Canada », où tout le pillage des mines de l'Afrique, c'est le Canada qui est à la base. Les compagnies américaines, tout et tout, utilisent le Canada, mais dans le cœur de ce pillage, ce livre a été même interdit. Ils sont même partis en cours pour que le livre soit retiré. Ils ont trouvé une médiation. Alain Desnaux, c'est un Français, mais qui est québécois quand même, qui est canadien, et son livre, Noir Canada, a été interdit. Parce que tout le pillage de l'Afrique, l'Afrique du Sud, où le Canada a été le pilier de l'apartheid. Le Canada a soutenu le régime de l'apartheid. Et ceux qui vont parler d'autre chose là, il faut dire la vérité. Le pilier de l'apartheid, deux pays qui ont soutenu, trois pays, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, le quatrième pays, c'est l'Australie. C'est eux qui sont les piliers de l'apartheid.
Je vais me tourner vers Murtala. Cette question des mines revient régulièrement, c'est-à-dire quand on parle du Canada, c'est essentiellement pour les mines. Est-ce le premier investissement du Canada en Afrique aujourd'hui?
Oui, c'est exact. C'est essentiellement dans le domaine minier. C'est une réalité. Et il est vrai que, comme dans tous les secteurs économiques, les multinationales exercent une pression très forte, non seulement sur le gouvernement du Canada, mais également sur le gouvernement africain, qui sont bien sûr moins solides au niveau de leurs capacités financières. Et donc, oui, c'est vrai, il y a une problématique réelle qui existe à ce niveau-là. Par contre, je constate ici qu'il y a beaucoup de PME canadiennes, notamment au Québec, qui sont dans d'autres secteurs d'activité et qui veulent commercer avec l'Afrique. En revanche, je pense que on ne se connaît pas encore assez bien. Il y a une certaine peur, je pense, une certaine crainte des entrepreneurs canadiens et ceux aussi d'origine africaine sur comment faire pour s'installer dans les différents pays et pouvoir commercer de manière convenable. Et maintenant, le commerce extérieur se fait dans les deux sens. Et je pense que nous sommes arrivés à une période où les entreprises africaines sont capables maintenant de faire valoir également leurs produits.
Justement, c'était l'autre aspect, c'est-à-dire on voit toujours les flux du Canada vers l'Afrique. Est-ce qu'il existe des produits que les Africains vendent eux aussi au Canada aujourd'hui?
C'est très
marginal. Parce que dans le cas de l'Agora, l'Agora par exemple permet aux Africains de vendre aux États-Unis d'Amérique, mais ça reste assez, on va dire assez limité. Dans le cas du Canada, que vendent les Africains?
Ils vendent très peu de choses, M. Foucault. L'essentiel de ce que le Canada achète en Afrique, si je prends précisément l'exemple du Québec, c'est d'abord dans 70% des cas du pétrole, du minerai et de l'uranium naturel. Donc, c'est pas grand-chose. Pour ce qui concerne les produits, disons, de première nécessité ou les produits du commerce de détail, c'est encore marginal. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
Puisque je regarde, celui qui exporte des biens vers le Canada, c'est d'abord l'Afrique du Sud, ensuite le Nigeria, le Maroc, l'Algérie et enfin la Côte d'Ivoire. Mais que vendent-ils sur place?
La Côte d'Ivoire, c'est le cacao en fèves et les brisures de fèves. Donc, ce n'est pas, c'est encore de l'exportation de rente. Ce ne sont pas des produits à haute valeur ajoutée.
Le Nigeria, c'est le pétrole. L'Algérie, c'est le pétrole.
Absolument.
Est-ce qu'il existe, M. Lacouandé, une politique qui permette aux Africains, comme vous, par exemple, de commercialiser autre chose au Canada?
Jusque là, à ma connaissance, non. Comme Moutala l'a dit, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Je partage son avis. On importe beaucoup, on importe des produits de valeur ajoutée qui n'est pas assez élevé. Et nous avons comme devoir, en tant qu'entrepreneur, de faire une pression sur le gouvernement pour faciliter les échanges et encourager les entreprises canadiennes aussi à venir vendre sur le marché canadien. Et je pense que c'est une réalité et que nous devons travailler à cela.
On sait qu'au Canada, les Africains se mobilisent de plus en plus pour participer aux élections, qu'il existe des députés africains au Parlement. Est-ce qu'ils ont un poids dans ce Parlement?
Ici au Canada, non. À ce niveau, je pense que un des problèmes qu'on a, c'est la capacité d'avoir du lobby auprès du gouvernement. Ces lobbies, ça passe aussi par avoir des représentants au Parlement. À ce niveau, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il n'y a pas beaucoup. Je pense qu'on a la chance d'avoir quelques députés d'origine africaine au Parlement, mais ce n'est pas assez significatif. Et au niveau des hommes d'affaires, c'est le même problème qu'on a. Il n'y a pas assez de lobbies. Et ça a une influence aussi dans notre capacité à négocier pour les pays africains. Alors oui, nous avons beaucoup de travail à faire et je pense que c'est à la communauté de s'organiser, c'est à notre responsabilité de nous organiser pour défendre les intérêts de la communauté africaine d'abord, mais aussi aider les entreprises africaines qui veulent vendre ici au Canada. Je pense que tout est à faire encore.
Tout est à faire, mais qu'est-ce qui empêche que ça s'organise, Monsieur Murtala Salah, vous qui vivez sur place? Comment expliquer que ces Africains qui pour la plupart sont diplômés, ont un travail aujourd'hui de qualité, ne puissent pas s'organiser pour faire pression sur ce gouvernement-là?
D'abord, il y a le premier élément que M. Lacouandé a évoqué, c'est l'aspect que vous n'avez pas encore assez de représentativité politique des personnes d'origine africaine sur la scène canadienne et québécoise. Le deuxième élément, c'est que même les hommes d'affaires et les femmes d'affaires d'origine africaine basées ici ne sont pas encore assez structurés pour exercer un lobbying sur les institutions canadiennes. Puis vous avez un élément psychologique qui est très important, c'est la méconnaissance en fait. C'est la perception, je dirais, un peu faussée du continent africain qui existe ici. C'est la guerre, c'est l'insécurité, c'est l'impossibilité
d'avoir un cadre réglementaire
stable. Les traditionnels clichés existent toujours, donc il y a une peur qu'il faut dissiper. Et ça, c'est le rôle, je pense, en premier lieu des Africains qui vivent ici.
Vous avez le sentiment qu'ils ne travaillent pas dans ce sens?
Ben, je pense que la réalité, c'est que beaucoup de gens travaillent, disons, dans leur propre sens. Il faut se fédérer pour pouvoir travailler ensemble et tirer la corde du côté de l'optimisme et de la bonne perception, la perception, disons, plutôt réelle de ce qui se fait réellement en Afrique et de comment l'Afrique évolue.
Voilà. Merci, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Merci d'avoir accepté de vous lever tôt pour participer au débat africain qui est terminé. Delphine Michaud qui est de retour, Olivier Raoul et Alain Foucault. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Le tarmac. La scène internationale francophone à Paris présente du 9